18h-19h, c'est vous qui le dites, présenté par la rédaction de Radio U.
Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 9 juin et vous écoutez C'est vous qui le dites, la quotidienne d'info locale et citoyenne de Radio U sur le 101.1 FM. Ce soir, vous pourrez retrouver en deuxième partie d'émission une interview de Jean Charmillot et Jérôme Galland que Marion a pu joindre par téléphone hier pour parler de leur spectacle Vol d'usage à retrouver sous chapiteau au quartier de l'Europe jusqu'au 23 juin. Mais avant cela, nous recevons Lucille Fontaine. Bonsoir Lucille.
Bonsoir.
Tu es assistante de galerie pour l'espace d'art Le Comédia.
C'est ça.
Tu viens ce soir pour nous parler de Brest sous le signe de l'Afrique. Alors c'est un événement que vous co-organisez avec le cinéma Les Studios et le centre d'art La Passerelle qui réunit une trentaine d'artistes jusqu'au 24 juillet.
Tout à fait, c'est ça.
Est-ce que tu peux nous expliquer pour commencer quel est le but de votre espace d'art, le Comédia?
Alors le Comédia, c'est un bâtiment mythique de la ville de Brest. C'est un bâtiment que les Brestois connaissent bien, affectionnent beaucoup, qui a été fermé malheureusement pendant presque 30 ans, 28 ans de fermeture, et qui en 2019 a rouvert sous la forme d'un espace d'art, donc d'une galerie. Et notre travail à nous, c'est de promouvoir la création artistique par la vente des œuvres d'art. Alors on a des artistes contemporains qui sont sculpteurs, qui sont peintres, qui sont photographes, graveurs. Certains sont décédés, d'autres sont vivants. Mais dans tous les cas, notre travail, c'est de promouvoir leur travail et de soutenir finalement la création et l'ébullition artistique.
Et qu'est-ce qu'on peut y retrouver? Qu'est-ce que vous y exposez au Comédia?
Actuellement, on a l'exposition Vision d'Afrique. Cette exposition, elle se tient depuis le 15 janvier et elle est prolongée jusqu'au 24 juillet suite à l'envie finalement des visiteurs et des collectionneurs de voir nos œuvres. Et donc cette exposition, qui au départ comptait 23 artistes, en compte aujourd'hui 29 et présente finalement diverses visions du continent africain, diverses visions de l'Afrique. Donc on n'est pas sur de l'art contemporain totalement africain, on est dans un thème africain avec des artistes contemporains de tous les horizons, y compris du Finistère.
Et justement, le thème de l'Afrique, c'est très très large. Il n'y a pas une culture africaine, il y en a beaucoup.
Tout à fait.
Quelles sont les influences culturelles, justement, qui ont inspiré les œuvres et les artistes?
Alors, il y a énormément de choses, effectivement. On peut parler, par exemple, de la peinture populaire congolaise, qui est une peinture par le peuple et pour le peuple, avec des artistes comme Chéri Chérin, Shula Mosengo, qui vont nous parler de la SAP, donc la société des ambianceurs et des personnes élégantes, qui vont traiter de la politique au Congo, qui vont dénoncer des choses également. On va pouvoir parler de société, de tradition, d'artisanat, à travers les bronzes d'Abou Traoré, qui est le seul représentant du Burkina Faso dans l'exposition. Et puis du côté des Finistériens, on va avoir cette approche finalement presque fantasmée parfois, ou dans l'observation de ces sociétés, avec la série des signes de Vincent de Montpezat, qui est une réinterprétation des milliers de dialectes qu'on trouve en Afrique et en plus en volume, ou même les œuvres de Loïc Madec, qui là, pour le coup, nous montre un fantasme de l'Afrique, d'un possible voyage réalisé, et donc d'un souvenir finalement.
Et est-ce que, à travers justement ce thème de l'Afrique, vous cherchez simplement à mettre en avant l'expression artistique de ces artistes, ou est-ce que vous essayez aussi de dénoncer certaines choses qui peuvent être dénoncées au sujet de l'Afrique?
Alors, nous, notre travail, c'est effectivement de montrer ce qu'il y a à voir, de montrer les différentes techniques, les différents mouvements, les différents styles. On ne dénonce pas en tant que galerie, on ne prend pas de parti pris, entre guillemets. Voilà, on ne va pas rentrer dans la dénonciation ou dans la politique. Par contre, quand on a des artistes qui ont des choses à dire, des causes à dénoncer ou à défendre, des éléments qui sont extrêmement forts, parfois qui peuvent aussi remettre en question une partie de nos conceptions du monde, on va les laisser faire et on va montrer ce qu'ils ont à dire. Le Comédia, lui, effectivement, ne va pas s'engager sur ce front-là. Par contre, quand il y a des choses à montrer par ces artistes, il les laisse montrer.
Et donc, dans le thème de Brest sous le signe de l'Afrique, donc vous organisez cette exposition, mais pas que. Il y a aussi une suite d'événements sur ce thème.
Tout à fait, oui, oui.
Et donc, on pourra aussi retrouver demain soir une conférence animée par, par Jean-Yves Augel
oui.
sur la culture guélédée, donc les masques, la magie, tout ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Bien sûr. Alors, Guélédée, masque et magie, c'est une conférence que nous avons souhaité proposer pour ouvrir sur autre chose, pour permettre la découverte d'une culture. Il faut savoir que le Guélédée, la culture Guélédée, elle vient donc de la région de Cové. Donc on est dans entre Fon et Yoruba, dans cette région au niveau du Bénin, entre culture Fon et Yoruba, dans l'ancien royaume de Kové. Et c'est une culture qui vient d'un mythe fondateur, que je vais vous raconter parce qu'il est très intéressant. Ce mythe, qui prend ses origines au XVIIIe siècle, raconte que les femmes qui, jusqu'à présent, avaient le pouvoir dans la société, puisque la femme avait le pouvoir de vie et de mort, en mettant au monde les enfants, mais en également pouvant reprendre la vie aux populations. Eh bien, ce mythe raconte qu'un jour, les hommes ont dérobé le pouvoir aux femmes et que la société est passée d'une société matriarcale à une société patriarcale. Or, cela a attiré forcément la colère des femmes et de la première d'entre elles, celle qu'on appelle la mère primordiale, qui s'appelle Iya Enla. Alors, j'espère que je prononce bien, mais je n'ai pas forcément toutes les connaissances sur la prononciation. Et donc, pour apaiser la colère des femmes et de la mère primordiale, les hommes ont mis en place des rites, une culture, un culte, donc le culte qu'on appelle aujourd'hui Guélédée, dont le principe est finalement de réaliser des cérémonies, notamment nocturnes, donc des cérémonies de nuit, durant lesquelles on va chanter, on va danser, on va porter des masques qui ont pour objectif d'apaiser la colère des femmes et donc d'éviter que les femmes se transforment en oiseaux à bec rouge la nuit et viennent dévorer, picorer les âmes des habitants et des citoyens de ces sociétés.
Et est-ce que, justement, cette dimension féminine, est-ce que ça vous touche particulièrement ou est-ce que c'est important pour vous ?
Alors, c'est vrai que la dimension féminine, dans l'exposition, dans un premier temps, elle est assez importante puisqu'on a beaucoup de représentations, notamment de la Mami Wata. Mami Wata, c'est une entité, une déité, on va dire, qui peut prendre la forme d'une sirène, qui peut prendre la forme d'une sorcière ou toute autre forme. Et selon le mythe fondateur, Mami Wata, donc qui vient de Mother et de Water en anglais, Mami Wata serait la créatrice du pays Congo et elle vivrait dans le fleuve Congo. Et cette déité, eh bien, on lui voue un culte parce que la partie sombre, un petit peu, de sa personnalité, c'est que vous lui vendez votre âme dans l'au-delà pour la réussite et le bonheur sur Terre. Cette dimension-là, déjà, cette part de féminin avec toujours un côté positif, un côté négatif, elle est présente chez les artistes et elle est souvent représentée. D'un point de vue personnel, c'est vrai que cette représentation de la femme, tous les mythes qui tournent autour de la femme, et particulièrement ce mythe fondateur du Guélédée, il interpelle. Dans une société comme la nôtre, en 2021, forcément, il interpelle et on se dit, tiens, on a là un mythe qui remonte au XVIIIe siècle, dont on a des traces, même s'il est peu exploré finalement, parce que peu d'ethnologues, d'anthropologues se sont intéressés à la société guélédée. Et on a donc ce mythe dans lequel on nous dit clairement les femmes avaient tout pouvoir dans la société, c'était une société matriarcale, et finalement les hommes volent le pouvoir pour X raisons, pour jalousie, pour volonté d'emprise, pour émancipation. Toutes les raisons sont ouvertes, en tout cas, évidemment que ça pose question.
Et ce vendredi sera lancée également l'exposition « Là où est la mer » au Centre d'art La Passerelle. De quoi ça parle, cette exposition ?
Alors, après cette fameuse conférence de Jean-Yves Augel, hein, qui est un grand expert du Guélédée, et il y en a très très peu, je tiens à le souligner, parce que encore une fois, ça a été très peu exploré. Il y a effectivement le lancement donc de Là où est la mer à Passerelle. Mais là-dessus, je laisserai plutôt mes partenaires, mes collègues de Passerelle expliquer plus en détail le travail de cette exposition. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on a pu travailler avec Passerelle et les studio dans cette volonté d'avoir un vrai partenariat autour de Brest sous le signe de l'Afrique pour fédérer finalement les institutions culturelles en cette période de réouverture en plus et d'émancipation aussi de notre côté, d'émancipation individuelle, pour proposer donc ce travail dans le cadre d'Africa 2020 finalement.
Et est-ce que le comédien a participé à la création de ce projet, à monter ce projet?
Tout à fait. Alors le partenariat, il est à l'initiative de la Galerie du Comédia, du travail évidemment de Passerelle et du travail des studios. On ne sait pas, nous en tant que Comédia investis dans l'exposition de Passerelle, évidemment, hein, c'est leur travail, c'est leur projet, tout comme Vision d'Afrique, c'est le travail du Comédia, mais on avait cette volonté de fédérer autour du projet Brest sous le signe de l'Afrique, et donc de proposer beaucoup d'événements en ce mois de juin aux Brestois, et évidemment aux visiteurs qui viendraient nous voir de plus loin.
Alors, il y aura aussi la diffusion mercredi 16, en avant-première du film « Les femmes du pavillon J » de Mohamed Nadif au cinéma Les Studios. Et le lendemain, vous organisez une autre diffusion en avant-première au studio, celle de « La nuit des rois », avec la présence du réalisateur, cette fois, Philippe Lacôte. On peut voir qu'encore une fois, il y a la présence des femmes qui sont mises en avant. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du pitch de ces films?
Alors ces films, qu'on a pu finalement voir avec les studios, hein, c'est une proposition aussi de notre partenaire. Finalement, sur les 3 jours, on va enchaîner, ne pas monter en puissance parce que tous les films se valent, mais on va vraiment montrer une diversité de points de vue autour de l'Afrique. Donc d'abord, effectivement, les femmes du pavillon J de Mohamed Nadif. Alors là, il faut imaginer, on est dans un hôpital psychiatrique et on est à la rencontre de femmes, des femmes qui sont là pour diverses raisons, qui aimeraient s'échapper, aimeraient retrouver leur liberté, qui vont être amenées à échanger, à vraiment vivre les unes avec les autres, à presque forger une communauté autour d'un groupe d'amis particulier, avec évidemment différents éléments qui vont venir troubler l'histoire. C'est un film extrêmement touchant. D'abord, effectivement, on nous parle de femmes, on nous parle d'histoire de femmes au Maroc, donc dans ce pavillon J de l'hôpital psychiatrique, mais on nous parle aussi finalement de liberté, d'échappatoire, de rêve, et ça c'est quelque chose de très fort. Et pour La Nuit des Rois, là cette fois-ci on est en Côte d'Ivoire, dans une prison qui serait réputée pour être la prison la plus dangereuse finalement près d'Abidjan. Et dans cette prison se trouve un détenu qui perd progressivement son emprise sur ses co-détenus. Et donc il a l'idée de relancer une tradition qui n'avait plus lieu depuis très longtemps. Et cette tradition, eh bien, c'est le fait de désigner souvent le plus jeune d'un groupe, donc le plus jeune détenu dernièrement arrivé, qui doit raconter pendant toute une nuit des histoires. Et donc il doit tenir éveillé ses co-détenus avec ses histoires, leur parler finalement contes, leur parler magie, leur parler spirituel, leur parler vaudou, et tenir éveillé toute l'assemblée pour ne pas avoir à être châtié finalement. Et ça permet donc à ce personnage central de reprendre un petit peu d'emprise. Et donc nous, on va voyager à travers les histoires qui seront racontées durant cette nuit des rois par un des personnages du film.
Et pourquoi avoir fait le choix d'utiliser une approche audiovisuelle en plus de l'exposition que vous organisez, notamment avec le cinéma?
L'idée ici est toujours dans cette idée de fédérer diverses institutions culturelles de Brest. L'idée était de proposer à des publics qui ont toutes les sensibilités divers moyens d'accéder aux visions qu'on a autour de l'Afrique. On a les expositions donc avec Passerelle et le Comédia. On a l'audiovisuel effectivement avec les studios. Et puis on aura donc les déambulations dédiées Kété. Et d'ailleurs le dernier soir, le samedi 19 juin, se tient le tout dernier film qu'on propose avec les studios, System K, qui est extrêmement intéressant et qui met également en scène les performeurs de Kinshasa. Et donc tout ça permet soit de suivre la totalité de la programmation et donc finalement d'avoir une approche extrêmement pluridisciplinaire des visions de l'Afrique et en sortir vraiment grandi, soit de piocher en fonction de ses préférences, de faire une petite sélection finalement de ce qu'on veut, de ce qu'on aime, et d'assister pourquoi pas donc à une conférence sur le Guélédé, et puis voir un film, suivre une déambulation, et voilà, construire comme ça une nouvelle vision du continent.
Et justement, tu en parlais des déambulations. Et du jeudi 17 au samedi 19 juin, on pourra assister justement à trois déambulations artistiques de la part d'Eddie Ekété, qui se fait appeler l'homme canette. Pour l'avoir vu en vrai, ça peut donner un certain, ça peut être amusant au premier regard, mais c'est sûr que ça fait réfléchir et ça laisse pas indifférent. Quel est l'intérêt de sa performance?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Eddie Ekété, donc, est un artiste, un performeur, né en 78 à Kinshasa, donc en République démocratique du Congo. Cet artiste-performeur, comme beaucoup de performeurs actuels de Kinshasa, donc de ce mouvement, il a pour idée de dénoncer un certain nombre de conditions de vie qu'on apparente plutôt à de la survie dans les rues de la capitale congolaise. Et il a aussi pour idée de réfléchir, d'avoir une forme de réflexion, d'étude autour de ces conditions de vie, puisque les performeurs de Kinshasa dénoncent, provoquent le pouvoir en place dans l'idée de faire aussi bouger les lignes, de montrer la misère qui existe dans certains quartiers de cette ville de 14 millions d'habitants quand même. Et donc Eddie Ekété, il a été frappé il y a quelques années par le nombre de canettes vides qui étaient jetées dans les rues, que ce soit en France, puisque lui il a fait ses études au Beaux-Arts à Strasbourg, et puis donc il vit toujours en France, il va à Paris, etc. Et le nombre de canettes est également dans les rues de Kinshasa. Et comme un des points fondamentaux du travail des performeurs, c'est de se baser dans la rue et de créer par la rue, donc par l'art de la récup, par ce qu'on appelle en fait le système K, qui sera donc le fameux film projeté le samedi 19 juin. Et donc ce système K qui va vraiment sublimer le quotidien, sublimer les déchets, eh bien Eddie Ekété, avec ses dizaines, ses centaines de canettes qu'il voyait par terre, il s'est dit il faut faire quelque chose. On peut pas laisser ça comme ça. Ce sont des objets qui sont utiles à l'homme. Et puis quand l'homme n'en a plus besoin, finalement, il les jette par terre. Il y a plus de vie. Il y a même pas de recyclage si le déchet est juste par terre dans la rue, pas dans la poubelle. Donc, il a collecté ses déchets à partir des années 2000 et il s'est demandé ce qu'il allait en faire. Et en 2007, à Paris, sont nés les hommes canettes. Et les hommes canettes, ce sont en fait des parures, des costumes que portent Eddie Ekété et d'autres performeurs. Ce sont des costumes d'à peu près 25 kilos quand même, faut imaginer le poids de la chose. Et ces costumes sont cousus, sont recouverts de canettes vides, souvent de soda, mais de toutes sortes de choses. L'idée, c'était à la fois de montrer les couleurs de la société, les couleurs produites par la société, qui se retrouvent sur ces canettes, qui sont finalement des couleurs de société de consommation. Parler de recyclage, de réutilisation de contenants, etc. Et puis parler, encore une fois, de la misère et de ces déchets qui peuvent joncher les rues, notamment à Kinshasa. Avec ses costumes, l'homme canette, il déambule. Il fait des performances, il fait des parcours. Et l'idée, c'est d'interagir avec d'autres hommes canettes quand il y en a, avec le public, avec les passants. Et ça crée vraiment des émotions particulières, parce que nous, ça nous renvoie à quelque chose qu'on ne connaît pas, quelque chose à laquelle on n'est pas du tout habitué, et surtout, le bruit qui accompagne l'homme canette à force de frottement entre les canettes elles-mêmes sur le costume, c'est tellement assourdissant que ça oblige vraiment notre cerveau à arrêter tout ce qu'il y a autour pour se concentrer sur ce qu'il entend et sur ce qu'il voit. Donc là, actuellement, les hommes canettes, et particulièrement Eddie Ekété, travaillent sur la chorégraphie, c'est-à-dire comment faire bouger l'homme canette, comment le faire danser, comment le faire s'arrêter, s'immobiliser, comment est-ce qu'il interagit avec les autres aussi, quand il y a un petit homme canette et un grand homme canette. C'est la grosse réflexion du moment. Et c'est vrai que les déambulations donc qui sont proposées les jeudis, vendredis et samedis du 17 au 19 sur divers parcours en centre-ville notamment, eh bien ça va permettre à chacun de voir un homme Kenneth et puis de participer finalement à cette réflexion autour du mouvement de cet homme et de ce silence qui d'après Eddie Ekieté est absolument assourdissant quand l'homme Kenneth s'immobilise.
Et du coup, t'en parlais du film System K. Et donc, il y aura une intervention débat organisée avec Eddie Ekieté pour la diffusion de ce film, qui a été réalisé par Renaud Barré. Et donc, cette avant-première sera diffusée au studio.
C'est ça, tout à fait. Alors, ce film-là, il est sorti en 2020 et il va être rediffusé donc au studio. Vraiment, il est extrêmement intéressant. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir parcourir un ouvrage qui a été réalisé, qui s'appelle System K aussi. Hein. J'ai pas encore vu le film, mais j'ai vraiment hâte. Et donc, il montre en fait ce travail des performeurs de Kinshasa, le fait de finalement devenir inarrêtable malgré la misère, malgré la pauvreté, malgré les conditions de vie qui s'apparentent plus encore une fois à de la survie dans certains quartiers de Kinshasa. Et donc, il montre plusieurs personnages. Donc, on retrouve hein, des personnes comme Eddie Ekieté et les hommes Kenneth. On va avoir des personnages astronautes aussi qui se confectionnent des costumes à l'aide toujours de déchets qu'ils ont trouvés dans la rue et qui deviennent des combinaisons d'astronautes. Et en fait, on part complètement dans un autre monde avec eux. On peut découvrir aussi des groupes de musique comme Cococo, des musiciens absolument hors pair qui nous emmènent dans une autre dimension. Et puis, parmi les performeurs de Kinshasa, on a également Géraldine Tobé qui expose actuellement au Comédia deux toiles. Et Géraldine Tobé, en fait, elle a été très jeune violentée. Elle a subi de nombreux exorcismes parce qu'elle était considérée comme un enfant sorcier. Encore aujourd'hui, il faut le savoir, hein, en 2021, au Congo, vous avez des enfants sorciers qui sont exorcisés par des pasteurs parce qu'on considère qu'ils portent le mauvais œil, que c'est eux qui attirent les malédictions, qui attirent les mauvaises choses. Donc on tente de les exorciser, souvent par le feu, malheureusement. Et ces enfants parfois survivent, mais avec des stigmates, avec des traumatismes. D'autres fois, malheureusement, décèdent. Et donc, Géraldine Tobé, qui a été enfant sorcier elle-même, qui a été brûlée, eh bien finalement, elle a trouvé sa catharsis, elle a trouvé son exutoire à travers la toile, et elle peint à la fumée. Donc elle tend, ça devient une véritable performance à Kinshasa, elle tend de grands linges qui deviennent une tente. Au plafond, elle tend sa propre toile, et à l'aide de fumée, soit avec une bougie, soit avec une lampe à huile, eh bien, elle vient répartir la fumée, la suie, qui va devenir son motif. Et ça lui permet aussi, en tant que performeur, en tant qu'artiste, de dénoncer ses pratiques, de rappeler qu'en 2021, on a encore ce type de pratique dans certains pays, et notamment dans certaines régions de la République démocratique du Congo, et puis également de faire découvrir l'art et ce qu'elle appelle finalement la normalité aux enfants sorciers en leur expliquant qu'ils n'ont rien fait de mal et qu'ils ne sont pas différents.
Alors pour revenir à Romain Barré, il a réalisé en 2010 Benda Bilili. C'est un magnifique film que je conseille de voir d'ailleurs. Et est-ce que à travers ces films, Romain Barré, il essaie pas de faire passer un message d'espoir pour la République démocratique du Congo, au-delà de dénoncer de façon évidente la pauvreté et la misère dans ce pays?
Je pense. J'ai malheureusement pas encore eu l'occasion d'échanger à ce sujet avec lui, mais je pense effectivement que on va plus loin. Avec ces films, on va beaucoup plus loin que la dénonciation de la misère ou la très juste, il faut le dire, hein, observation des conditions de vie, des conditions de réalisation, des performances et des artistes. Je pense qu'on va effectivement plus loin avec cette notion d'espoir, cette envie de porter plus haut la République démocratique du Congo, d'élever un petit peu les esprits à travers ce qu'il filme. Et il a une manière de filmer qui est absolument remarquable, où on est au plus près des personnages, on est au plus près des individus, et en même temps, eh bien, on a ce recul qui reste dans l'objectivité, qui ne nous force pas le trait d'un côté ou de l'autre, et qui nous permet justement d'avoir cette idée d'espoir qui ressort de ces créations.
Eh bien, merci beaucoup, Lucile Fontaine, d'être venue ce soir.
Merci à vous.
Je rappelle que vous pourrez profiter de l'exposition Vision d'Afrique jusqu'au 24 juillet et que vous pouvez retrouver toutes les infos et vous inscrire pour les événements de Brest sous le signe de l'Afrique sur le site internet de la Comédia. C'est vous qui le dites, revient dans un instant et tout de suite, on écoute LSD de Skeggs. C'est toujours C'est vous qui le dites, la quotidienne d'info locale et citoyenne de Radio U sur le 101.1 FM. Et maintenant, on retrouve Jean Charmillot et Jérôme Galland, que Marion a pu joindre par téléphone hier, pour nous parler de leur spectacle Vol d'usage à retrouver sous chapiteau, au quartier de l'Europe, jusqu'au 23 juin.
Jean Charmillot et Jérôme Galland, bonjour.
Bonjour.
Vous jouez votre spectacle de cirque Vol d'usage avec le Quartz jusqu'au 23 juin sous un chapiteau au quartier de l'Europe. Alors j'ai eu l'occasion d'aller le voir samedi dernier. Ce spectacle, sans trop le divulgâcher, est-ce que vous pouvez un petit peu nous le présenter ?
Alors c'est un spectacle de cirque, de sangle aérienne et de vélo acrobatique, un duo. Donc voilà, où on est deux sur la piste. Et c'est l'histoire d'un accident de vélo et de la sensation d'envol et de comment on retrouve la mémoire derrière un accident.
Et donc, ce spectacle, comment est-ce que vous l'avez construit?
Eh ben, c'est un spectacle qui s'est inspiré des divers petits accidents qu'on a eus en faisant du cirque ou dans notre vie, simplement. Des petites anecdotes qu'on a aimé se raconter avec Jérôme. Et voilà, en fait, après avoir eu l'idée de lier le vélo acrobatique et les sangles, de vouloir en faire quelque chose, on a vraiment partagé ces anecdotes et on avait envie de faire un spectacle qui parle de ça, un peu de l'anecdote, de l'histoire drôle ou pas, et en même temps des histoires qu'on aime raconter à tout le monde et que tout le monde a quand même déjà vécu. Enfin, vraiment une espèce de partage d'expérience comme ça.
Et donc, ce spectacle Vol d'usage, on peut le découvrir sous un chapiteau, le vôtre. C'était évident pour vous, le chapiteau, justement?
C'était une envie qu'on avait... à la base, en fait, de tourner en chapiteau pour plusieurs raisons. Déjà, la première raison est il y a la raison technique du fait de que les sangles et le vélo acrobatique demandent un cercle qui soit assez grand. Donc, c'est vrai qu'on voulait du public tout autour en circulaire avec une grande proximité par rapport à la piste et d'autre part voilà pour les points d'accroche et tout ça et au-delà de ça, c'était l'envie de l'itinérance, de pouvoir s'implanter vraiment dans un milieu urbain, pouvoir aller vraiment à la rencontre des gens de la vie qu'il y a autour du chapiteau. Et voilà, la vie en itinérance, en gros. Et je sais pas si Jean, tu veux...
Dans un milieu urbain ou à la campagne, en fait, l'idée, c'était vraiment de, comme disait Jérôme, de pouvoir aller avec un spectacle d'une heure à des endroits où il n'y a pas forcément de salle, où les gens n'ont pas forcément l'habitude de se déplacer, et pour nous, de pouvoir les rejoindre et proposer notre spectacle.
Alors, ce spectacle, justement, ça fait 5 ans que vous le jouez. Est-ce que vous l'avez fait évoluer ou est-ce qu'il est toujours resté le même?
Il a plutôt pas bougé, en fait. Il est resté plutôt identique à sa forme initiale. Après, c'est un spectacle où comme disait Jean, on raconte une histoire. Et sur scène, on est vraiment les artistes, les copains que l'on est dans la vie de tous les jours. Et c'est vrai que ça évolue parce qu'on se raconte une histoire, parce qu'on le vit au quotidien, en fait, ce spectacle-là. Mais après, dans sa forme, dans les mouvements qu'il propose et tout ça, c'est vraiment resté tel quel.
Et donc, il y a 5 ans, il n'y avait pas le Covid-19, on ne savait même pas ce que c'était. Comment est-ce qu'elle s'est passée cette dernière année pour vous?
Eh ben, on a eu de la chance de pouvoir aller jouer à la réunion pile sur le confinement de novembre. Donc, et puis à Nantes aussi, on a quand même pu jouer un peu sur cette période-là. Après, c'est vrai que ça a été une année complexe à gérer par rapport au spectacle, mais qui en même temps nous a permis de faire grandir des projets parallèles, d'imaginer comment on voulait continuer cette aventure, parce que comme vous le disiez, ça faisait 5 ans, donc il a fallu se poser la question de savoir jusqu'à quand on va le faire. Et en fait, cette période de pause nous a permis de savoir qu'on voulait le faire encore longtemps, et qu'en même temps, on avait envie d'essayer des nouvelles choses, de partager des nouvelles aventures aussi. Donc, ça a plutôt posé les choses et mis des choses à plat pour nous, et ça nous a donné un nouveau souffle pour continuer Vol d'usage.
Et le fait d'être accueilli à Brest, ça nous a, on a eu le temps de pouvoir reprendre le spectacle. On s'est installé une semaine avant le début des représentations, qui a commencé par des groupes scolaires. Et donc, on a pu avoir quand même un temps de reprise, de réparation par rapport au chapiteau, parce que c'est un matériel qu'il faut entretenir aussi assez régulièrement, et de pouvoir faire des ateliers et des médiations dans le quartier de l'Europe.
Et donc, dans Vol d'usage, j'ai remarqué que vous regardiez aussi énormément les spectateurs, et notamment pendant vos acrobaties. Pourquoi ce choix de mise en scène?
Pour nous, c'était juste... une envie de proximité, une envie de partager des choses, et faire un spectacle où on est aussi proche et où on se regarde pas, ça aurait moins de sens. Peut-être c'est comme quand on raconte une blague, on attrape les gens à qui on raconte la blague pour on les regarde pour voir si ça réagit. Et là, c'est la même chose, c'est une envie d'être au plus proche et de vraiment partager les moments, les émotions à travers ce qu'on fait. En fait, la physicalité de nos acrobaties sert à essayer de partager des petites émotions et plus qu'à faire des choses grandioses.
Et comme disait Jean, on raconte une anecdote, en fait, et un regroupement d'anecdotes. Et c'est aussi des des expériences que tout le monde peut vivre en fait. Et c'était une façon aussi de pouvoir inclure le public aussi dans ce que l'on raconte et qu'ils se sentent proches de ce qu'on fait, de la sensation qu'on a et d'avoir aussi cette envie de le faire avec nous et de pas être comme disait Jean dans une performance qui serait juste là pour être admiré, esthétique.
Et est-ce que vous avez l'impression que c'est quelque chose qui est lié au cirque peut-être?
Ça dépend. C'est vrai que le rapport scénique fait que de toute façon, le fait que le public soit autour, une partie du public voit l'autre public qui regarde aussi la piste de l'autre côté. Enfin, c'est vrai que ça donne le cercle donne quelque chose qui rapproche de toute façon dans la relation artiste-public.
Après, il y a tellement de formes de cirque qu'on ne peut pas vraiment dire que cette forme-là soit liée au cirque. Elle est liée à notre façon à nous de voir le cirque, peut-être, en tout cas sur ce spectacle-là. Mais on ne peut pas faire une généralité de ce choix-là, de ces regards posés au monde du cirque en général.
On parlait de public. Il y avait de nombreux enfants quand j'y suis allée, des enfants à qui vous avez fait un petit peu peur, que vous avez véritablement impressionné de par vos acrobaties. On les entendait s'extasier. Est-ce que c'est des réactions que vous continuez d'entendre pendant votre spectacle? Est-ce que vous êtes trop concentré pour y faire vraiment attention? Comment vous réagissez face à ces réactions en direct, justement?
Voilà, c'est quelque chose qu'on entend tout le temps et vraiment, ça c'est un peu la magie d'être aussi proche. C'est que chaque parole prononcée par un spectateur, même doucement, on les entend. Et c'est vraiment quelque chose que nous, on reçoit pendant le spectacle. Et ça nous surprend toujours. Alors des fois, c'est agréable, des fois, ça l'est moins. Mais ça nous surprend toujours de comment notamment les enfants réagissent à des moments inattendus aussi des fois et ce que ça implique aussi nous dans notre changement de jeu justement parce que le spectacle il a physiquement pas bougé mais c'est avec toutes ces réactions là qu'il vit et qu'il grandit en fait.
C'est réellement des spectacles vivants et puis aussi il y a le côté où le fait d'être d'entendre ces réactions et tout ça, enfin c'est vrai que pour nous, la construction et l'écriture de ce spectacle, c'était vraiment de faire un spectacle avec plusieurs niveaux de lecture où en même temps, un enfant même de 5 ans, 6 ans peut apprécier et peut se rendre compte de la performance, peut apprécier les vols que l'on fait pendant ce spectacle et en même temps de pouvoir avoir aussi une approche plus dramaturgique pour des personnes plus confirmées, pour des adultes ou des adolescents. Enfin, on voulait avoir vraiment un spectacle qui puisse parler à tout le monde, où tout le monde pourrait prendre ce qu'il veut et le faire vivre et réagir selon ce qu'il prenait, selon ce qu'il recevait de nos acrobaties.
Est-ce que vous avez un moment ou une anecdote qui vous a particulièrement marqué pour une raison particulière?
Des anecdotes, il y en a plein, parce que c'est vrai que c'est notre vie, au quotidien. C'est entre le pendant le spectacle ou pendant le montage du chapiteau, où on partage un temps avec des équipes locales qui viennent nous aider pour ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être marquantes.
En avoir une particulière, c'est vrai que c'est compliqué comme ça. Ouais. C'est toujours, en fait, chaque arrivée sur une place est toujours une surprise de où est-ce qu'on va être installé ou comment on va être reçu par les locaux, d'être au milieu de leur village ou de leur ville. Et c'est vrai que c'est toujours... Il y a des milliers d'anecdotes, mais comme ça, une seule, je sais pas.
Donc, vous êtes dans ce duo de cirque, mais vous faites également partie d'une compagnie. Si j'ai bien fait mes recherches, vous avez créé cette compagnie, c'est la compagnie Quotidienne. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu?
Eh ben, c'est vraiment la compagnie qu'on a créée avec Jérôme pour faire ce spectacle dans un premier temps, qui est notre compagnie qu'on a voulu pour défendre justement l'itinérance, défendre les structures itinérantes, la rencontre des spectateurs. Et c'est Vol d'usage, c'est le premier spectacle de cette compagnie. Nous, on a fait d'autres spectacles sous d'autres compagnies avant, Mais là, c'est vraiment un peu quelque chose qu'on a créé ensemble à l'image de ce qu'on voulait partager avec avec les spectateurs.
Et c'est une compagnie qui est partie, voilà, juste de cette envie de nous deux, et puis qui a pris racine, qui a pas été au début, on était vraiment tous les deux avec très peu d'accompagnement et tout ça. On avait cette envie un peu folle d'avoir un chapiteau, donc voilà, on a travaillé pas mal pour ça, hein, de manière autonome, voilà, comme on le pouvait. Et puis petit à petit, donc pendant ces cinq dernières années, c'est vrai que on a pu s'établir, être complètement autonome au niveau du matériel, de vie, de spectacle, de tout ça. Et aujourd'hui, bah, ça représente une équipe qui a deux personnes pour le bureau, pour l'administration et la diffusion, et puis après une équipe de régisseurs aussi qui tourne avec nous. Voilà, donc il y a deux régisseurs à chaque fois, mais ça tourne. Donc c'est vrai que ça a permis de construire une équipe assez importante, et on est très content d'avoir pu se poser dans quelque chose comme ça, avec voilà, avec des échanges, avec beaucoup d'expériences de collègues aujourd'hui qui sont porteurs en fait encore aujourd'hui de ce projet-là, de l'amélioration de ce projet.
Le cirque, vous l'avez dit, il y a plein de types de cirque. Est-ce que vous avez l'impression, notamment avec ces dernières années et les questionnements par rapport donc aux animaux dans les cirques et tout ça, est-ce que vous avez l'impression que le regard du public change par rapport au cirque? Est-ce que vous avez l'impression de voir une évolution avec toutes vos itinérances?
Pour moi, les spectateurs que nous on rencontre, c'est des gens qui viennent voir le type de cirque sans animaux, le type de spectacle construit, enfin, qui est très différent du cirque traditionnel. Après, je pense que la mentalité des spectateurs change, que les gens, certaines personnes apprécient moins les spectacles avec animaux parce que on y fait plus attention et on en parle beaucoup. Je sais pas si c'est la mentalité générale, je saurais pas dire. Moi, j'ai toujours travaillé dans des cirques sans animaux et je pense qu'il y a des spectateurs pour tous les types de spectacles de cirque qui existent.
Après, c'est vrai qu'il y a le chapiteau rappelle toujours un imaginaire, quelque chose que voilà. Donc c'est vrai que bah, en même temps, comme là, on est accueilli par la scène nationale du Quartz, donc on est dans une programmation. On touche à un public qui est habitué à ça, qui est du théâtre, mais en même temps on s'installe dans un quartier, et donc ça amène la curiosité de riverains qui vont venir voir ce spectacle sans trop savoir non plus ce qu'ils vont voir. Donc c'est vrai que je pense que le public, il peut être très varié, et souvent on le voit, hein, selon les endroits où on s'installe, quoi, des publics très différents. Mais sans faire de clivage, et puis pareil au niveau de notre philosophie plus personnelle, pour nous c'est pas le cirque contemporain comme on le fait aujourd'hui, c'est pas l'évolution du cirque traditionnel, c'est une autre voie qui s'est créée. On a tout à fait du respect aussi pour le cirque traditionnel, ce qu'on appelle traditionnel, donc c'est-à-dire avec Monsieur Loyal, avec les animaux, avec une structure de programme, de numéros. Donc voilà, pour nous on n'est pas là pour remplacer quelque chose qui était déjà existant, mais pour amener une forme différente en fait.
Jean Charmillot et Jérôme Galland, merci.
Merci à vous.
Ce soir, nous avons eu la chance d'accueillir Lucille Fontaine pour nous parler de l'exposition Brest sous le signe de l'Afrique, organisée par l'espace d'art Le Comédia. Je rappelle que vous pourrez profiter de l'exposition Vision d'Afrique jusqu'au 24 juillet et que vous pouvez retrouver toutes les infos et vous inscrire pour les événements de Brest sous le signe de l'Afrique sur le site internet de Le Comédia. Nous avons aussi pu écouter l'interview de Jean Charmillot et Jérôme Galland à l'instant, qui nous ont parlé de leur spectacle Vol d'usage à retrouver sous chapiteau au quartier de l'Europe jusqu'au 23 juin. Toutes les infos sont disponibles sur le site internet du Quartz. C'est vous qui le dites, c'est fini pour aujourd'hui. Nous, on se retrouve demain pour une autre émission. En attendant, restez à l'écoute du 101.fm, car à 19h, vous pourrez retrouver Thibaut de West Sound dans les sessions et Muse à 20h. Bonne soirée à tous.